C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode.
Bienvenue sur ce nouvel épisode questions et réponses du mois. Alors, comme d'habitude, comme toujours, avant de répondre à vos différentes questions que vous m'avez posées via un formulaire présent en description d'ailleurs, soit dit en passant, je vais m'accorder quelques petites minutes pour faire mes petits rappels habituels. Le premier appel, le classique, le sempiternel appel à l'action, pour vous demander simplement de me laisser une note ainsi qu'un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de podcast dont vous vous servez au quotidien. Cette action peut, certes, vous paraître insignifiante, mais pour moi, c'est le meilleur moyen de contribuer au développement de mon podcast. Donc, si mon travail vous plaît, si chaque semaine il vous permet de constater et de prendre conscience de tout le potentiel de notre cerveau et de nos compétences bien évidemment, alors prenez ces quelques petites secondes, ça ne vous coûte rien encore une fois, et moi ça m'apporte énormément, bien plus que vous ne le pensez. Ensuite, deuxième rappel. La semaine dernière, je vous ai préparé un petit guide dans lequel je vous livre vos 3 premiers outils de la mémoire à ajouter à votre boîte à outils. Alors je parle d'outils, de boîte à outils, d'où vient ce parallèle un peu bizarre entre mémoire et bricolage. C'est simple, ça j'en ai parlé la semaine dernière, mais pour résumer, pour faire court, il n'existe pas en fait une technique universelle de mémorisation, mais plusieurs techniques. Et en fait, toute la stratégie est de savoir quelle technique utiliser selon la situation qui se présente à nous. Du coup, en fait, pour moi, la mémoire s'apparente à une grande boîte à outils logée dans notre cerveau, dans laquelle nous allons piocher les outils dont nous allons avoir besoin pour mémoriser ce que l'on veut mémoriser. Que ce soit un plan de réunion, le contenu d'une formation, le contenu d'un livre, un processus complet, des méthodes de prise de décision, les prénoms d'inconnus lors d'un salon professionnel, leur numéro de téléphone, son agenda de la semaine, son agenda du mois, voire de l'année, et j'en passe. Donc voilà, tout simplement, pour en venir au but, d'où vient ce terme de boîte à outils. Alors tout ça pour vous dire, si j'en reviens au pourquoi du comment j'en suis venu ici, que mon guide est encore disponible actuellement. Il a été téléchargé pour l'instant plus de 70 fois, et les retours que j'ai eus sont littéralement excellents. Alors toi, si tu n'as pas encore téléchargé ton guide, ton petit livre, et si tu m'écoutes actuellement et que tu es intéressé par ce dernier, sache que tu as un lien en description pour corriger le tir. Tu cliques sur le lien, tu remplis le petit formulaire, tu me laisses ton prénom, ton email, et je te l'envoie immédiatement par email justement. Voilà, l'intro c'est fait. Maintenant on passe de la première partie du podcast à la deuxième partie du podcast. Alors, cette deuxième partie n'est pas encore la réponse à vos questions, celle-ci arrive juste après. Car avant ça, j'ai envie de vous partager, de vous partager à tous et à toutes qui m'écoutez une véritable découverte pour moi que j'ai fait la semaine dernière, à savoir la découverte de la philosophie de Nietzsche. Alors, Nietzsche, de base, comme tout le monde je pense, je connais ce philosophe de nom. Je connais ses 2-3 principes qui étaient liés à lui, comme le concept de Dieu est mort, mais je n'ai pour autant jamais pris le temps de réellement comprendre sa philosophie, de réellement comprendre sa pensée, sa vision des choses et surtout sa vision de l'être humain, de l'homme en tant que tel. La semaine dernière, je suis tombé aléatoirement, grâce aux algorithmes de YouTube, sur une conférence de 3 heures qui portait justement sur la philosophie de Nietzsche, notamment transposée à l'heure actuelle. Conférence qui est animée par Julien Rochdy. Je vous mets un lien en description du podcast si ça vous intéresse. Par contre, ça dure 3 heures encore une fois, je vous préviens. Et là, en écoutant cette conférence, en la finissant, je suis littéralement tombé à la renverse en constatant que toutes mes idées, toute ma vision des choses, toute ma vision de la société actuelle et de l'homme actuel rejoint la vision de Nietzsche. Et j'ai également remarqué à quel point tout ce que je cherche à vous transmettre au travers de Soskiller, et d'autant plus au travers de l'Académie Holistique, donc l'Académie Holistique, mon académie de formation en ligne, tout ce que je cherche à transmettre au travers de ces 2 éléments-là correspondent également aux concepts et aux idées de Nietzsche. Alors, en quoi justement ce que je cherche à vous transmettre correspond et rejoint la pensée de Nietzsche ? En fait, la pensée de Nietzsche, pour faire très simple, car je suis encore loin de la maîtriser parfaitement, en tout cas ce n'est pas encore le cas pour l'instant, en fait, c'est que Nietzsche limite pour ce qu'il appelle le retour du surhomme. Le surhomme et la surfemme, bien évidemment. Alors, ce que je vais dire à partir de maintenant risque potentiellement, je vous préviens, de choquer certaines personnes. Certains d'entre vous vont peut-être me penser trop extrémiste, trouver ma vision des choses beaucoup trop dure, trop archaïque, trop extrême, mais ce n'est pas grave. C'est ma pensée, c'est ma vision des choses. Je suis à votre écoute potentiellement pour en débattre, pour échanger là-dessus, pour transmettre mon point de vue et écouter le vôtre. Mais sachez que réellement, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, j'en ai pris conscience réellement grâce à cette conférence. Et donc, à partir de là, sachez que SoSkiller et que l'Académie Holistique va progressivement se diriger vers ce même mode de pensée-là. Alors, aujourd'hui, je l'ai déjà évoqué par-ci, par-là, à droite et à gauche, notre société, j'en suis convaincu actuellement, est en pleine décadence. J'en ai notamment parlé dans mon podcast spécial sur Cyril Lignac, épisode dans lequel je disais que l'émission Tous en cuisine était un véritable scandale sanitaire en période de Covid-19. Et ça, ce n'est qu'un des éléments qui me font dire aujourd'hui que la société est en pleine décadence. Aujourd'hui, personne ne sait s'alimenter. Personne n'a d'ambition. Personne n'a de volonté de grandeur. Personne n'a confiance en lui. Personne n'a confiance en ses capacités, en son potentiel. Aujourd'hui, croire en soi, en sa capacité, en son potentiel, est mal vu, est critiqué, est vu comme étant de l'égoïsme, de l'égocentrisme ou quelque chose de mal, d'intrinsèquement mal et mauvais. Aujourd'hui, il faut vraiment, on le voit quotidiennement, réfréner ses envies, réfréner ses rêves, réfréner ses ambitions. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, la majorité des personnes ne font qu'attendre. Qu'attendre que le temps passe, devant la télévision, devant les séries ou encore dans des fast-foods. Aujourd'hui, je fais réellement un état des lieux global de tout ce que j'ai constaté. Aujourd'hui, plus personne en fait n'a de tenue également dans la rue. Quand moi, j'observe des gens dans la rue, personnellement, ça me fait peur. Les gens marchent au ralenti, ils ont le regard baissé, le regard vide, ils n'ont aucune forme physique, ils sont fatigués, ils sont là. Généralement, ils sont vulgaires, ils jettent des déchets par terre et j'en passe. Tout ça, encore une fois, je le répète, me fait dire que notre société actuelle est en pleine décadence. Me fait dire que l'on régresse aujourd'hui, que l'on recule aujourd'hui, qu'on n'a plus cette volonté de puissance si chère à Nietzsche actuellement. On n'a plus cette volonté de conquérir, de faire mieux, de s'améliorer, de progresser, de rendre fier sa femme, son homme, ses enfants, sa famille, ses proches. Tout ça, Nietzsche l'a prédit, a émis l'hypothèse comme quoi la société allait se diriger vers ce mode-là de fonctionnement. Et ça, il l'a prédit il y a 100 ans en arrière. Aujourd'hui, tout le monde se contente d'avoir une petite vie sans ambition, avec pour seul but de profiter de l'instant présent, de la jouissance présente à l'instant T, sans penser au lendemain et sans avoir de projet à long terme. Tout ça, encore une fois, va à l'opposé de la notion de surhomme nietzschéen. Je pars un peu dans tous les sens, j'en ai conscience, mais je parle avec le cœur. Alors, le surhomme nietzschéen, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme ou une femme, encore une fois, le terme homme est le terme générique, qui veut faire mieux, qui veut s'améliorer, qui veut progresser, qui ne veut pas se contenter de ce qu'il ou de ce qu'elle a aujourd'hui, qui veut avoir du charisme, de la culture, des connaissances. C'est avant tout également une personne qui a conscience de tout son potentiel et qui veut se donner les moyens de l'exploiter pour être chaque jour une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Et c'est ça qui me transcende aujourd'hui au travers de mes projets que sont SoSkiller et l'Académie Holistique. C'est ça qui m'anime. C'est vous démontrer à quel point votre cerveau est puissant, à quel point vous pouvez déplacer des montagnes avec, à quel point vous sous-estimez potentiellement actuellement tout ce potentiel, à quel point vous pouvez faire de grandes choses, des choses qui aujourd'hui, potentiellement, vous paraissent complètement impossibles. Pourtant, ces ressources, vous les avez dans votre corps et plus précisément dans votre cerveau si on se concentre sur mon travail, sur ce que je vous transmets chaque semaine, que ce soit en podcast, en email ou en formation. Donc, tout ça pour dire que ce que je fais avec mon travail, je m'en rends réellement compte aujourd'hui, c'est que je transpose en fait, au final, cette vision nietzschéenne du surhomme au monde du travail. Et ça au travers du concept de surperformance que j'ai inventé. Alors, plutôt que je me suis approprié, plutôt que réinventé. J'ai eu donc cette prise de conscience-là cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, pardon, et je tenais à vous la partager, à vous la présenter et à être transparent et honnête envers vous qui me suivez potentiellement depuis plusieurs mois, plusieurs années, en tout cas depuis au moins un an et demi maximum. Alors, j'ai conscience que mes propos peuvent choquer, que mon écœurement de la petitesse actuelle puisse vous blesser, que mon admiration pour les gens qui se dépassent, qui veulent faire mieux, qui veulent progresser vous gêne, mais encore une fois, c'est ma vision des choses, c'est ça qui m'anime et j'ai enfin réussi à mettre des mots sur cette idée qui était en moi depuis des années et des années. Ces mots sont la volonté de puissance et cette notion de surhomme que j'ai inconsciemment transposée dans le concept de surperformance avant même d'avoir connaissance du travail précis de Nietzsche. Et moi, de mon côté, au travers de mon podcast, au travers de mes formations que je propose à chaque mois, j'ai à cœur aujourd'hui, c'est la mission que je me donne, la nouvelle mission que je me donne, de contribuer à ma petite échelle au retour de ce surhomme, de cette surfemme, de cette personne qui veut se dépasser, qui veut progresser, qui ne veut pas se contenter de la misère actuelle, de la petitesse actuelle. Encore une fois, je sais que ce discours va diviser, va polariser, va m'attirer, des insultes, des reproches, mais c'est comme ça. Si vous y adhérez, tant mieux, c'est génial, on continue ensemble. Si ce n'est pas le cas, soit on échange ensemble, par téléphone, on peut débattre, par Skype, par Zoom, peu importe. Ce serait un véritable plaisir d'échanger avec vous, de partager mon point de vue et de le confronter au vôtre. Mais si jamais réellement mes propos vous dérangent, malheureusement, ça restera comme ça, ça restera mon fil conducteur, je ne changerai pas. Aujourd'hui, c'est la mission que je me suis donnée et que je compte réellement pousser à son paroxysme. Je compte réellement à contribuer à cette émergence à nouveau du surhomme et de cette surfemme dans le sens nietzschéen du terme. Voilà, ça c'était pour la première partie du podcast. J'ai conscience, c'est lourd, c'est dense, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Je vous expose réellement le fond de mes pensées, ce que je vis au quotidien, ma vision des choses et ce pourquoi je me lève chaque matin. Maintenant, j'ai enfin mis des mots sur ça et je compte réellement approfondir ce sujet et vous le partager encore une fois en podcast et également au travers de mes formations, en gardant bien évidemment ce prisme du travail qui sera sous-jacent, qui sera le fil rouge de tout ça. Allez, maintenant, on repasse aux choses plus légères en quelque sorte, on passe à la réponse à vos questions. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est la question de Laurent. Laurent qui me demande « Pourquoi apprendre à mémoriser alors que les machines le font à notre place ?» Super question qui m'a été posée à plusieurs reprises, notamment sur mon forum privé. Alors, cette question, effectivement, elle a lieu d'être posée. Effectivement, les machines mémorisent mieux que nous, le font à notre place et le font effectivement encore mieux que nous, largement mieux que nous. Elles ont plus de potentiel, plus de fonctionnalités et surtout, elles ont une mémoire quasiment infinie. Pour autant, malgré ça, malgré ce constat-là qui est évident, il faut se rendre à l'évidence, c'est logique, c'est vrai, c'est la vérité. Pour autant, je reste moi sur mes positions et j'affirme et je continuerai d'affirmer surtout qu'il est important de développer sa mémoire aujourd'hui et ce pour deux raisons principales. La première, par souci de ce que je vais appeler l'hygiène mentale. Alors tu vois Laurent, ici on peut faire beaucoup de parallèles. Pourquoi, je te pose des questions, pourquoi continuer à cuisiner alors que les plats industriels surgelés et préparés à l'avance existent ? Pourquoi continuer à faire des calculs de tête alors que la calculatrice le fait beaucoup mieux que nous ? Pourquoi ne pas tout déléguer aux machines et se faire assister sur tous les pans de notre vie ? Toutes ces questions ont lieu de se poser. Certes, j'exagère pardon, volontairement le trait, mais bon, toutes ces questions, au final, ont lieu d'être posées. Il faut réellement prendre conscience aujourd'hui, selon moi, que ce ne sont pas les machines qui vont te permettre, qui vont vous permettre de créer des choses, de progresser, de raisonner, de prendre des bonnes décisions, d'avoir un esprit vif, critique et rapide. Personnellement, je fais partie du clan des personnes, si on peut appeler ça un clan, qui pense qu'il faut mieux utiliser les machines pour ce qu'elles sont, à savoir des aides et non pas des substituts de notre cerveau. En fait, ce qu'il va se passer, peut-être que tu es déjà dans ce mécanisme-là, moi je l'ai traversé également de par le passé, plus tu vas déléguer à une machine, moins tu seras capable de décider par toi-même. Plus tu vas déléguer à une machine, moins tu prendras de bonnes décisions, en fait, car tu seras enfermé justement dans le cadre que t'impose la machine. Que t'impose là, le lieu plutôt où tu as stocké toutes les informations que tu as stockées, ou les quelques informations que tu as stockées, peu importe comment tu procèdes. En fait, tu es victime de ce qui s'appelle, en neurosciences, notamment au niveau des biais cognitifs, de l'effet tunnel. Tu ne vas voir que ce que tu as sous les yeux. Et donc, tu ne verras pas le problème dans sa globalité. Tu ne verras pas le problème qui s'oppose à toi dans son entièreté. Pourtant, je le sais, tu en as conscience, c'est nécessaire, c'est obligatoire même, vu que tu m'écoutes. Un problème ne peut pas être résolu complètement, en ne pensant que de façon trop stricte, trop étriquée. On ne peut résoudre réellement un problème qu'en pensant de façon globale, qu'en ayant toutes les pistes de réflexion à portée de main, ou du moins le plus de pistes possible pour justement décider de façon efficace et rapide, et surtout intelligente. Et là, la transition, c'est nickel, elle tombe plutôt bien, elle est toute faite, avec la deuxième raison pour laquelle tu dois chercher à développer ta mémoire et non pas à te contenter de déléguer tout à une IA. Cette raison est la différence entre le savoir et la sagesse. Alors ça, c'est un concept que j'aborde notamment dans ma formation PSO pour protocole sommeil optimisé. Le savoir, en fait, représente les connaissances, et là, effectivement, les machines, même le plus basique des ordinateurs, peut emmagasiner plus de connaissances que toi, que tu ne pourras jamais en emmagasiner durant toute ta vie. Et ça, notamment grâce à son accès à Internet. Ok, c'est bien, mais ça, sans la sagesse, ça ne sert à rien. Et la sagesse, c'est quoi ? Ça, c'est le propre de l'homme. C'est ce qui nous distingue, nous, justement, des machines. C'est ça qui te fera surperformer au quotidien. La sagesse, en fait, c'est notre capacité à relier les informations entre elles. C'est notre capacité à faire des corrélations, à faire des liens entre des concepts parfois très éloignés les uns des autres. Et c'est ça qui fait notre force en tant qu'être humain. Je répète parce que c'est très important, c'est ça qui fait notre force en tant qu'être humain. C'est ça qui fait que notre cerveau est une putain de machine largement supérieure à tout ce que l'homme peut produire et pourra produire à l'avenir. Je me suis enflammé, désolé, mais réellement, le cerveau est une machine tellement plus complexe que tout ce que pourra imaginer et produire l'homme. Et pour en revenir à cette notion de sagesse, comment elle se développe ? Eh bien justement, elle se développe notamment grâce à la mémorisation, grâce à un travail de mémoire. Et là, l'équation, elle est toute simple. En fait, plus tu vas mémoriser d'informations, plus tu auras d'éléments à croiser. Plus tu vas croiser d'éléments, plus tu feras de corrélations. Et plus tu feras de corrélations, meilleur tu seras au quotidien pour développer des idées, des concepts et pour résoudre des problèmes. Tu vois, je suis sûr, Laurent, que dans ton quotidien, tu as croisé à plusieurs reprises, comme ça nous arrive tous, des problèmes, des personnes, pardon, qui font face à des problèmes et qui, hop, en un coup d'œil, en une seconde ou en quelques minutes, peu importe, trouvent une solution rapide, une solution efficace, une solution simple et peu coûteuse, alors que toi, ça fait potentiellement un jour ou deux jours que tu butes dessus. Ces personnes arrivent, elles ont le truc, elles comprennent précisément le pourquoi du comment, elles trouvent des solutions auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Ces personnes, souvent, ont une excellente mémoire et font ces corrélations dont je viens de te parler. Elles ont cette différence entre connaissance et sagesse. Alors, avant de continuer rapidement, je ne sais pas si ça va s'entendre durant l'enregistrement, mais j'ai des personnes qui font des travaux à côté de chez moi, qui réparent le toit, donc ça fait beaucoup de bruit, en espérant que ça ne vous dérange pas trop. Allez, je reprends. Donc maintenant, Laurent, imagine-toi à quel point tu irais plus vite au quotidien grâce à une telle faculté. À quel point tu ne perdrais plus de temps à bloquer sur des éléments, sur des problèmes. À quel point ça va t'aider dans ton travail. À quel point tu vas faire la différence au quotidien grâce à ça. Et encore, je me suis arrêté là, mais je peux encore continuer encore plus longtemps. Car en fait, plus tu vas développer cette faculté, plus tu vas parvenir à mémoriser d'autres informations. Car en fait, la mémoire, je l'ai déjà parlé dans le podcast numéro 1 de cette série de podcasts sur la mémoire, fonctionne fonctionne par analogie. Pardon, j'ai perdu mes mots. La mémoire fonctionne par analogie. Donc plus tu vas avoir d'informations en mémoire, plus tu vas faire de corrélations facilement. Et plus tu vas faire de corrélations facilement, plus tu vas mémoriser à nouveau facilement de nouveaux éléments qui, eux, vont te permettre de faire de nouvelles corrélations qui vont te permettre à nouveau de mémoriser plus facilement. Bref, tout ça pour dire que oui, les machines, effectivement, sont des outils géniaux ou des outils géniaux. Bref, les machines, c'est top. Moi-même, je décentralise toute une partie de ma mémoire dans un système de productivité que je présente d'ailleurs en détail dans ma formation neuroproductivité. Mais ce que je fais, c'est que je décentralise uniquement ma mémoire de travail. Ma mémoire qui est la plus faible, la moins pratique, la moins facilement intégralisable dans son cerveau à long terme. C'est pas spécialement français, mais tu as compris là où je veux en venir. Et c'est ça le conseil que je veux te donner. Certes, décentralise ta mémoire, utilise des outils, mais uniquement pour des éléments qui sont réellement sans enjeu. Quand tu dois retenir un processus, quand tu dois retenir un plan de réunion, tout ça, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas le décentraliser dans une machine, car encore une fois, ça aura ses limites. Et toi, ça va t'éviter de faire travailler ton cerveau, ce qui ne peut t'apporter que des bénéfices, comme je viens de te le dire. Voilà pour la première question. Maintenant, place à la question suivante, la question de Fanny qui me demande s'il n'y a pas un risque avec un surdéveloppement de sa mémoire, le risque de retenir des choses totalement inutiles qui ne s'effacent jamais. Alors, je vais faire court. Non, question suivante. Non, plus précisément, plus sérieusement, non, il n'y a pas de risque. Car au final, toutes les informations finissent un jour ou l'autre par s'effacer s'il n'y a pas de répétition volontaire. Autrement dit, si tu as à mémoriser une information qui maintenant te paraît inutile ou qui ne te présente plus d'intérêt spécial, alors, laisse le temps faire. Apprends et mémorise d'autres informations et tu finiras par oublier l'information initiale. Tout ça, ça s'inscrit encore une fois dans la courbe d'Ebbinghaus dont je t'ai parlé la semaine dernière en podcast et qui est encore plus détaillé dans mon guide des 3 outils pour la mémoire. Guide gratuit, encore une fois, que tu peux télécharger facilement via le premier lien présent en description. Maintenant, question suivante, la question de Tristan qui me demande si la mémoire ne décline pas inévitablement avec l'âge. Alors, oui et non. Fatalement, plus notre âge avance, plus notre mémoire va vieillir. C'est logique, le cerveau vieillit, la mémoire vieillit également. Donc ça, c'est pour le oui. Après, pour le non. Notre mémoire, en fait, ne va pas tant décliner que ça si on ne le laisse pas décliner. Si on ne va pas la laisser à l'abandon. Si on ne passe pas ses journées à ne plus rien apprendre. Si on ne se laisse pas aller. Si on n'a plus cette envie de découvrir les choses. Si on est encore stimulé. Si on cherche à travailler sa mémoire, à l'entretenir, effectivement, certes, elle va diminuer, ce qui est logique, parce qu'il y a une neurodégénérescence qui va se mettre en place. Mais, encore une fois, si tu continues à l'entretenir au fur et à mesure des années, ton cerveau restera lucide, même quand tu seras extrêmement âgé. Et à partir de là, tu vas pouvoir avoir que des super bénéfices. Tu seras notamment le roi de la maison de retraite. Tu seras l'expert à tous les jeux de cartes, car tu pourras compter les cartes, les mémoriser, tu seras un pro du Scrabble et j'en passe. Donc oui, effectivement, fatalement, la mémoire décline, car le cerveau lui aussi décline, mais plus tu vas l'entretenir, c'est comme un muscle au final, plus tu vas la conserver, moins tu vas en perdre au fur et à mesure des années qui vont passer. Encore une fois, c'est un muscle, ni plus ni moins. Quand tu fais de la musculation comme moi, tu le sais, si tu entretiens continuellement ton corps, tout fonctionne. Le jour où tu arrêtes, c'est foutu, ça baisse progressivement. Et après, tu perds tout ce que tu as gagné. Donc encore une fois, non, la mémoire ne va pas inévitablement te faire défaut quand tu vas vieillir. Tu peux l'entretenir au quotidien et ça commence dès maintenant. Allez, question suivante maintenant. La question numéro 4, si mes calculs sont bons, la question de Christophe qui me demande quelle est la part de génétique dans une bonne mémoire. Alors, par génétique, je pense, Christophe, que tu me demandes dans quelle mesure la mémoire n'est pas héréditaire, n'est pas innée et non pas est acquise de par le travail. Alors, ça, j'y ai déjà répondu rapidement dans les podcasts précédents et notamment dans le premier podcast de ce mois, encore une fois. En résumé, en fait, il n'y a qu'un seul type de mémoire qui est plus ou moins inné et ça, c'est la mémoire physionomiste, la mémoire des visages. Pour le reste, c'est de l'acquis à 100%. Avec les bons outils, avec la bonne trousse à outils, la bonne boîte à outils, avec les bonnes méthodes, les bonnes techniques et surtout avec la pratique, tu atteindras en quelques semaines un niveau de mémoire que tu penses aujourd'hui inatteignable, crois-moi. Ça m'est arrivé, je suis passé par là, les personnes que j'ai déjà accompagnées dans ma famille sont aussi passées par là, mes amis également, mes proches également. C'est bluffant de voir à quel point on progresse rapidement dans ses capacités de mémorisation, surtout au début. Ensuite, maintenant une question plutôt que j'ai envie de te poser, à ton avis, c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde pense que la mémoire est héréditaire ? La simple et bonne raison pour laquelle cette idée est répandue là aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes oublient un facteur clé dans le processus de mémorisation qui est la passion. Et ça, on en a parlé notamment avec Frédéric, avec Benji, avec Henri notamment et Benoît sur le forum privé. En effet, la passion est un facteur primordial dans la capacité de mémorisation. Si tu as une personne qui a une bonne mémoire typiquement dans ton entourage, la prochaine fois, sois attentif. En fait, il y a deux possibilités qui vont expliquer sa super mémoire. Soit une passion énorme pour un sujet bien spécifique ou pour plusieurs sujets spécifiques, qui fait que cette personne a naturellement une connaissance énorme sur ce ou sur ces sujets, car ça la passionne, elle lit dessus, elle se documente dessus, elle fait des corrélations dessus plus facilement que toi. Ou, deuxième possibilité, cette personne a sa propre boîte à outils de mémoire, et là tu le remarqueras facilement car elle dispose d'un large spectre de connaissances et non pas uniquement d'un spectre réduit à ça ou à ses passions. Typiquement, je vais prendre mon cas personnel, plutôt un vécu personnel. Durant ma scolarité, quand j'étais dans mes années lycée, j'avais un mec dans ma classe qui s'appelait Geoffrey. Je lui passe le bonjour, même s'il ne m'écoute pas, c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, je pense qu'il s'appelle toujours Geoffrey, hein, soit dit en passant, je ne pense pas qu'il ait changé de prénom entre-temps. Et ce type, en fait, était un passionné de sport. Il citait sans problème, en fait, tous les vainqueurs du top 14 dans l'ordre. Même dans le désordre, peu importe. Idem pour la Ligue 1, pour la H-Cup, pour toutes les Coupes du Monde, pour le Tour de France, pour Roland-Garros, pour tous les tournois de tennis, et j'en passe. À l'époque, j'étais littéralement bluffé par lui. Alors qu'au final, avec le recul, ce mec, avec mon niveau de connaissance actuellement, je sais qu'il n'avait aucune mémoire. Et ça se retranscrivait parfaitement dans les échanges que j'avais avec lui, qui ne portaient pas sur le sport. C'était juste un passionné de ce sujet-là. Ça, c'est également le cas de mon meilleur pote. Mon meilleur pote, qui est mon pote d'enfance, qui est maintenant le parrain de mon fils, d'ailleurs, et qui est lui aussi un passionné de sport, notamment de rugby, qui connaît tout sur tout, qui connaît tous les joueurs, toutes les équipes, et tout leur palmarès, et j'en passe. Encore une fois, il n'a pas une mémoire exceptionnelle, pas du tout, mais il a cette passion-là. Et ça, également, on le retrouve dans tous les jeux télévision où la culture, entre guillemets, rentre en jeu. Et là, je ne parle pas de tout ce qui est Attention la marche ou les 12 coups de midi ou tout ce qui passe sur TF1 d'ailleurs. Car ça, je suis désolé, je vais être cru à nouveau, mais ce n'est pas de la culture, c'est de la sous-culture, de la culture de bas étage, c'est de la culture du moindre effort, de la culture moderne si on résume. Moi, je parle de jeux comme Tout le monde veut prendre sa place, comme Question pour un champion et j'en passe. En fait, quand on s'attarde sur les champions de ces jeux-là, sur leur parcours, que remarque-t-on ? On remarque une récurrence, leur passion. Leur passion pour le cinéma, pour l'histoire de France ou pour la musique. En fait, quand on regarde bien les jeux télévisuels actuellement, 80% des questions posées dans ces jeux-là gravitent autour de ces trois sujets que sont à nouveau le cinéma, l'histoire de France ou la musique. Moi, quand j'étais plus jeune, je m'en souviens très bien, quand je rentrais de l'école à l'époque, j'adorais regarder Tout le monde veut prendre sa place. Quand je rentrais pour manger le midi, c'est ça, je regardais à chaque fois Tout le monde veut prendre sa place. Et cette époque-là coïncidait avec un champion qui m'a marqué encore aujourd'hui, qui me marque encore aujourd'hui, qui s'appelait Dominique, qui était très bon dans ce jeu-là, bien évidemment, et qui était aveugle, ce qui fait que je l'ai mémorisé facilement aujourd'hui grâce à ce trait-là, à ce trait physique, peu importe. Ce type était bluffant. Il a longtemps, d'ailleurs, eu le record de victoires dans ce jeu, mais quand on y regarde de plus près, quand on fait une analyse, avec le recul maintenant, je peux la faire, quasi systématiquement, il choisissait les questions relatives au cinéma qui étaient sa passion. Et c'est ça, c'est ce phénomène-là, ce choix-là, cette culture-là et cette passion-là pour le cinéma qui lui a permis de durer aussi longtemps dans ce jeu, de gagner autant de fois à la suite dans ce jeu-là. Bref, j'ai pas mal digressé, j'en ai conscience, donc si je reprends, si je résume. Non, la mémoire n'est pas génétique. Si on aime quelque chose, il est plus facile de le mémoriser, deuxième point. Et quand on n'aime pas quelque chose, comme mémoriser des plans de réunion, comme mémoriser des procédures, comme mémoriser le prénom de personnes en particulier, ou quand on doit retenir des choses abstraites comme des numéros de téléphone, là, une boîte à outils de la mémoire devient nécessaire. Elle s'impose, elle fait la différence au quotidien. Donc voilà la différence entre la passion et la mémoire qui, elle, se travaille grâce à des outils et grâce à une boîte à outils. Allez, place maintenant à l'avant-dernière question, la question de Clémentine qui me demande s'il faut suivre un régime de vie particulier pour avoir une super mémoire. Alors, techniquement parlant, avec les outils que j'ai commencé à te donner et que je vais te partager encore plus en détail à la fin du mois, tu pourras avoir une mémoire supérieure à 99% de la population, même en mangeant McDonald's tous les jours. Après, tu me connais, si tu me suis, je ne vais pas te conseiller de faire ça. Et surtout, d'ailleurs, que tu auras encore de meilleurs résultats avec un bon régime alimentaire. Et grâce à quelques petites habitudes de vie qui ne paraissent pas spécialement importantes dites comme ça, mais qui vont faire la différence dans l'acquisition des outils que je vais te partager à la fin du mois. Tout ça, ce sont des éléments que j'aborde réellement en détail dans mes formations BrainSood et Protocole Sommeil Optimisé notamment. Mais fin du mois, encore une fois, tu auras accès à une petite synthèse de ces éléments-là gratuitement. En tout cas, ce sera inclus dans la formation que je te proposerai à la fin du mois. Allez, maintenant, dernière question. On va terminer avec la question de Maud. Maud qui me demande s'il y a un âge limite pour travailler sa mémoire. Alors, si je reformule ta question, Maud, ça donnerait, je pense, que si passé un certain âge, ça ne sert plus à rien de travailler sa mémoire. Alors, là, je vais répondre avec une analogie que j'aime beaucoup, qui est toute simple. C'est l'analogie de l'arbre. Cette analogie-là n'est pas de moi, elle vient de mémoire d'un proverbe chinois ou japonais, disons asiatique, pour faire simple. Ce proverbe dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Et que le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Autrement dit, c'est comme pour tout. La mémoire, c'est comme pour tout. Plus tôt on commence à la développer, mieux c'est. Mais ce n'est pas pour autant que si tu as loupé le train il y a quelques années en arrière, que tu dois te priver du second train qui va passer. Donc non, pour être synthétique, il n'y a pas d'âge pour développer sa mémoire mode. Plus tu commences tôt, effectivement, mieux c'est. Mais si jamais tu ne commences jamais à développer ta mémoire, tu ne pourras jamais réellement tirer les bénéfices. Et notamment le bénéfice d'entretenir ton cerveau durant des années et des années et d'éviter la neurodégénérescence que connaissent beaucoup de personnes âgées en maison de retraite. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Alors un énorme merci pour toutes vos questions comme d'habitude. J'espère que mes réponses vous auront apporté des pistes de réflexion intéressantes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, pleine de réussite, pleine de surperformance et à vous dire à lundi prochain. 7h pour le dernier podcast consacré à cette thématique de la mémoire et de la surperformance professionnelle avant que nous entrions ensemble dans un nouveau sujet, dans une nouvelle thématique. Ciao !